Je vous en prie. Quand vous voulez. Ok. Alors d'abord un point. Est-ce que tout le monde a pu récupérer les slides jusqu'au cours de la semaine dernière? Est-ce qu'il y a certains parmi vous qui ne les ont pas eus? C'est bon? Alors, est-ce que les, je ne sais plus combien vous étiez, 4 qui m'avaient donné leur adresse mail la semaine dernière sont là? Ouais. Je refais pareil cette semaine. Je vous les envoie là, dans l'après-midi, aujourd'hui, et vous transmettez aux camarades de promo. On n'a toujours pas d'accès, et la seule solution qu'ils me proposent, c'est un truc complètement ouvert, donc... Pour l'instant, je m'y refuse. Donc, tant que ça fonctionne comme ça, vous voulez diffuser en boucle fermée par l'intermédiaire des 4 étudiantes qui m'avaient donné leur mail. Je les ai là. Je vous envoie, s'il vous plaît. Vraiment, c'est pas de notre fait. Hein. Je vous envoie ça dans la journée. Comme ça, vous aurez les slides du cours d'aujourd'hui. Donc, on avait terminé la semaine dernière sur une présentation un peu générique du dernier chapitre, pardon. Qu'il nous reste à traiter dans la première partie déjà, sur la question de l'application de la loi. Et donc, on va s'intéresser à plusieurs temps, si vous voulez. D'abord, les questions d'identification de la chronologie de la vie, un peu de la loi, c'est-à-dire le moment de l'apparition, de l'adoption de la loi, de l'entrée en vigueur plus exactement, parce que c'est ça qui va nous intéresser, et le moment de sa disparition, donc les hypothèses d'abrogation. Et ensuite, on verra la problématique qui est, je vous disais la semaine dernière, sans doute une des plus techniques, qui est la question de l'application de la loi dans le temps, pour le coup. Donc, on commence avec une première section sur la naissance et la mort de la loi. Encore une fois, comme on le disait la semaine précédente, on entend en naissance et mort de la loi naturellement dans un sens métaphorique. Si on veut parler, là encore, dans un langage un peu plus technique, la question de la naissance telle qu'on l'envisage ici, c'est la question de l'entrée en vigueur. On va y revenir, mais en fait, à quel moment est-ce que la loi devient efficiente, effective? Et à l'autre bout du prisme, la question de la mort, c'est la question de l'abrogation. Et donc, c'est les deux temps, si vous voulez, sur la vie de la loi qu'on va envisager, la question de l'apparition et la question de la disparition de l'autre côté. Donc, d'abord, un paragraphe premier sur la question de l'entrée en vigueur. Comment est-ce que la loi entre en vigueur? Ça revient à se poser la question de comment est-ce que la loi, à quel moment est-ce que la loi devient effective, c'est-à-dire pour reprendre une caractéristique qu'on a évoquée dans le premier chapitre, pour le coup, à quel moment est-ce qu'elle devient contraignante pour les citoyens? C'est ça, en fait, l'entrée en vigueur de la loi. À quel moment est-ce qu'elle va s'appliquer? À quel moment est-ce qu'elle va acquérir force obligatoire? À quel moment est-ce qu'on doit la respecter? On a vu en amont tout le processus d'élaboration de la règle, la discussion entre les assemblées, au sein du Parlement, Assemblée nationale, Sénat, etc. On se doute bien qu'au moment de la discussion, au moment de l'élaboration, elle n'est pas contraignante, la loi. Elle est en cours d'élaboration. Voilà. Si vous voulez garder la métaphore, c'est un peu ce temps-là, c'est un peu une question de gestation de la loi. Donc tant que la loi est en gestation, elle n'est pas effective. Elle n'est pas entrée en vigueur et donc elle ne s'applique pas, elle n'est pas contraignante pour les individus. Donc là, on se situe en aval, en fait, de ce qu'on a vu précédemment, qui est le processus d'élaboration, la discussion entre les assemblées, etc. Ça y est, la loi est faite. À quel moment est-ce qu'elle entre en vigueur? Voilà. On va d'abord dire un mot sur le fonctionnement de cette entrée en vigueur et ça fait l'objet d'un grand A. Alors, il y a plusieurs choses à avoir à l'esprit. D'abord, pour que la loi devienne exécutoire, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire susceptible d'exécution et donc efficace, contraignante, il faut qu'elle fasse l'objet de ce qu'on appelle une promulgation. C'est au moment de la promulgation que la loi intègre le droit objectif. C'est une différence notable avec le règlement. Alors attention, quand je dis règlement ici, c'est au sens du bloc réglementaire, donc le bloc en dessous du bloc de légalité qu'on a vu dans la hiérarchie des normes. C'est une différence avec le règlement, notamment avec le décret. Pour les décrets, le caractère exécutoire, il est automatique. Il n'y a pas besoin de procédure de promulgation. Voilà. On se passe de la promulgation et la réalisation même, le caractère définitif même du décret suffit à le faire entrer dans le droit objectif. Pour la loi, c'est pas pareil. Il y a une étape de promulgation qui est prévue à l'article 10 de la Constitution et à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, cet article 10, que je ne vous lis pas, mais dont je vous donne un peu la substance, l'article 10 vous précise que c'est au président de la République de promulguer les lois dans les 15 jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Donc il y a un délai de 15 jours, la loi est transmise, la loi définitivement adoptée par le Parlement est transmise au gouvernement, et à partir de là, le président a 15 jours pour promulguer. Avant l'expiration de ce délai de 15 jours, donc dans le timing des 15 jours, il a la possibilité, s'il le souhaite, de demander au Parlement une nouvelle délibération sur le texte, soit sur le texte dans son intégralité, soit plus généralement sur des articles du texte seulement. Cette nouvelle délibération-là, elle ne peut pas être refusée par le Parlement. C'est-à-dire que si le président la demande, il faut que le Parlement se livre à une nouvelle discussion sur le texte, une nouvelle délibération sur le texte. Une fois que ça c'est fait, le cas échéant, c'est rare, hein, mais une fois que ça éventuellement c'est fait, cette promulgation, elle intervient par ce qu'on appelle un décret de promulgation. C'est par ce décret-là que le président de la République va ordonner que la loi devienne exécutoire. C'est par le décret que le président ordonne donc l'exécution même de la loi. Ce décret de promulgation, il a une double fonction que vous avez au tableau. D'une part, il authentifie le texte, c'est-à-dire que c'est lui qui confirme en quelque sorte que le texte a bien été voté par le Parlement. Il y a une espèce, là encore de manière métaphorique, mais c'est une espèce de sceau de conformité, de validité. Ça atteste bien que c'est un texte qui a été discuté par l'Assemblée et le Sénat. Donc ça, c'est sa première fonction. Et surtout, il inscrit le texte dans le temps, ce décret de promulgation, en lui conférant une date. Vous allez rencontrer tout au long de votre cursus plein de lois que vous allez étudier et vous verrez que ces lois, elles s'appellent loi numéro 2024-267 du... Combien on est ? 25 ? Du 25 septembre 2024. Cette date-là, la date de la loi, quand vous avez loi numéro X, nanana, du 25 septembre 2024, c'est la date du décret qu'il a promulgué. La date à laquelle le décret de promulgation a été pris. Donc c'est le décret de promulgation qui donne sa date à la loi. Attention, on va voir là dans un instant que le critère temporel, il est de première importance pour l'application de la loi, parce que c'est le critère qui permet de savoir quand est-ce qu'on va appliquer la loi par définition. Pour autant, c'est pas cette date-là. Donc si vous avez une loi qui est intitulée « Loi pour la promotion, c'est rien moi, de l'égalité du 25 septembre 2024 », cette date-là n'est pas la date qui va compter pour l'entrée en vigueur. La date de promulgation est différente de la date de l'entrée en vigueur. Absolument retenir ça, sinon vous allez vous planter sur l'application de la loi dans le temps. Il y a une date de promulgation, qui est donc la date, encore une fois, du décret de promulgation lui-même, qui donne une date à la loi. Pour autant, cette date-là, qui figure dans l'intitulé même, dans le nom même de chaque loi, c'est pas la date de l'entrée en vigueur. Parce que date d'entrée en vigueur et date de promulgation sont deux dates différentes. La date de l'entrée en vigueur, sans grande surprise, elle va dépendre de la publication au JO. Donc au journal officiel, pardon. Pourquoi est-ce que je dis sans surprise ? Pour qu'il soit légitime qu'on exige des citoyens le respect de la loi. Eh bien encore faut-il qu'elle soit publiée, donc qu'elle soit publique. On va revenir un peu plus tard, là, dans le cours d'aujourd'hui, sur la question de la règle « Nul n'est censé ignorer la loi ». L'un des grands fondements de la légitimité de cette règle-là, c'est la connaissance. Si nous, en tant que citoyens, on n'a pas d'accès au texte qu'on est censé respecter, c'est difficile de nous reprocher un non-respect. Voilà. Pour pouvoir se soumettre au respect de la loi, il faut que cette loi soit connue, donc qu'elle soit publique, au sens de connu par l'ensemble des citoyens, et donc qu'elle fasse l'objet d'une publicité, d'une publication, et ça passe par le journal officiel. Si elle reste encore une fois dans une confidentialité absolue, c'est difficile de faire le reproche aux citoyens derrière de ne pas l'avoir respectée. Alors, la publication désormais, en parallèle de la publication sur papier historique, hein, c'est une publication aujourd'hui sous format électronique. Donc, vous pouvez consulter le journal officiel, hein, chaque jour. Vous regardez sur Légifrance et vous consultez le journal officiel. La date de l'entrée en vigueur, pour ce qui nous intéresse, nous, ici, elle est liée, elle dépend de la date de la publication au JO. Mais évidemment, ce serait trop simple si on s'arrêtait là. Et là encore, sauf cas exceptionnel sur lequel je vais revenir dans un instant, la date de publication, donc quand je dis date de publication, encore une fois, c'est la publication au journal officiel, la date de publication n'est pas non plus la date de l'entrée en vigueur. Donc si vous faites une frise chronologique, vous avez la discussion de la loi, évidemment, le processus d'élaboration, ensuite la loi est promulguée par un décret de promulgation, ensuite la loi est publiée au JO, et en principe, sauf exception, le moment de l'entrée en vigueur, il est postérieur à cette publication au JO. Donc en fait, le distinguo, il se fait entre trois dates, promulgation, publication, entrée en vigueur. Ces trois dates-là, c'est trois dates différentes. Ça peut vous surprendre un peu dans l'absolu, et le premier réflexe peut-être, c'est de se dire que le juriste se complique toujours un peu trop la vie, et que là finalement on a trois dates, est-ce qu'on ne pouvait pas simplifier un peu les choses ? En réalité, ça repose ça sur une question qui est finalement, sur une lecture en tout cas, qui est finalement assez logique. Je viens de vous dire que c'était la publication au JO, au journal officiel, qui garantissait la connaissance par les citoyens, et donc qui légitimait derrière le caractère exécutoire, obligatoire, etc. Bon, je résume là en amphi, ne l'écrivez pas comme ça, mais l'idée qu'il y a derrière ça, et l'idée qu'il y a derrière le fait de dire la date de publication, c'est pas non plus la date de l'entrée en vigueur, c'est de se dire il faut leur laisser 5 minutes aux citoyens pour en prendre connaissance de cette loi-là. La difficulté, si vous dites la date de publication, c'est la date de l'entrée en vigueur. Ça veut dire, par exemple, que vous avez le JO qui est publié là, ce matin, à 7h, admettons. Vous sortez de chez vous à 7h02 et vous vous retrouvez dans une situation qui est envisagée par la loi. Compliqué de vous reprocher de ne pas vous être saisi des 120 secondes que vous aviez sous la main, là, pour aller consulter le texte. Voilà. Je force le trait, évidemment. Mais l'idée du distinguo entre la publication et l'entrée en vigueur, c'est ça. Tout est lié, en fait, la distinction entre la date de promulgation, de publication et d'entrée en vigueur, tout est lié à cette idée que pour que ce soit légitime qu'on respecte tous la loi, il faut la connaître. Et donc, ça passe par deux étapes. Il faut qu'elle soit publique, ça c'est le job du décret de promulgation. Il faut qu'elle soit diffusée, ça c'est la publication au journal officiel. Et enfin, il faut qu'on ait été en capacité de prendre connaissance de cette loi avant qu'elle ne s'applique. S'il y a une coïncidence exacte dans le temps entre le moment de la publication et le moment de l'entrée en vigueur, c'est délicat de considérer qu'on a pu prendre connaissance du texte. Alors on va en reparler tout à l'heure, hein. De toute façon, dans un certain nombre d'hypothèses, ce principe de connaissance de la loi à partir du moment où elle est publiée, il est théorique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que même pour vous, pour nous qui sommes des juristes ou en train de devenir des juristes, on ne connaît pas l'intégralité des lois. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Je vous explique dans quelques instants ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est une vision un peu globale. On se doute bien qu'en pratique, en pratique, on ne connaît pas l'intégralité des textes. Ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'on est tous mis en capacité de les connaître. Voilà. En réalité, c'est ça le sens derrière. Et pour être mis en capacité, il faut laisser quelques instants, c'est schématique, hein, mais il faut laisser quelques instants pour avoir pris connaissance du texte. Bon, alors, jusque-là, on a raisonné par la négative. On s'intéresse, nous, à la date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire, encore une fois, à quel moment est-ce que le texte devient contraignant. On sait que cette date d'entrée en vigueur, c'est pas la date de promulgation et c'est pas, sauf cas exceptionnel, la date de publication. Bon, si on raisonne cette fois-ci en positif, c'est quoi la date d'entrée en vigueur ? Et c'est le premier article, c'est-à-dire l'article qui ouvre le Code civil, qui vous donne les moments, parce qu'en réalité il y en a plusieurs, les moments possibles de l'instant de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Je vous lis l'article, on va le décortiquer, ne le notez pas, vous l'avez en ligne, je vous envoie les slides tout à l'heure. Les lois, et lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, on essaye de se détacher d'une lettre du texte qui est parfois un peu aride en première année quand on commence. La parfaite compréhension d'un coup de l'article 1, elle est sans doute un peu difficile. Dans ces cas-là, vous faites ce que je vous ai dit, on schématise. Vous décortiquez l'article en faisant des schémas sur les différentes hypothèses. Qu'est-ce que ça donne ? La première hypothèse, si je reviens sur mon texte, hop, c'est le premier alinéa, donc c'est la première partie du premier alinéa. Les lois, lorsqu'ils sont publiés au JO, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut le lendemain de leur publication. Bon, la première hypothèse, donc, c'est le texte entre en vigueur à la date qu'ils fixent. C'est-à-dire que le texte de loi lui-même va prévoir dans un de ses articles que l'entrée en vigueur se fera à telle date. Voilà. On a déjà parlé beaucoup de l'ordonnance qui avait donc acquis force de loi, hein, puisqu'elle avait été validée par le Parlement, l'ordonnance qui a réformé le droit des contrats, qui a changé la numérotation d'un certain nombre d'articles, droit des contrats, droit de la preuve, l'ordonnance de février 2016. L'ordonnance de février 2016, qui donc avait force de loi, elle avait fixé la date d'entrée en vigueur, je ne me souviens plus exactement, mais en octobre 2016. Donc elle avait laissé un long moment, c'est rarement aussi long, hein, là c'est parce qu'elle bouleversait plein de choses, mais c'était un texte de février, elle laissait jusqu'en octobre pour l'entrée en vigueur. Pourquoi est-ce que sur ce texte-là ça a été si long entre les deux ? Parce qu'elle changeait tellement de choses qu'il fallait que les praticiens, au premier titre, les juristes, prennent bien connaissance du texte avant qu'il devienne effectif. Voilà, pour qu'on ait toutes les clés. C'est rarement aussi long. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que vous avez un certain nombre de textes qui vont eux-mêmes directement fixer la date d'entrée en vigueur. Bon, dans ce cas-là, on n'a pas de question à se poser. Donc ça veut dire que pour vous, quand vous cherchez à connaître la date d'entrée en vigueur d'un texte, premier réflexe, vous allez lire le texte en question. Est-ce que dans ce texte-là, j'ai un article de loi qui me prévoit lui-même directement la date de l'entrée en vigueur ? Si c'est bon, bah les étapes suivantes, elles ne vous intéressent plus. Voilà. Deuxième hypothèse, cette fois-ci. Deuxième hypothèse, c'est l'autre branche de l'alternative du premier alinéa. Les lois entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Ça veut dire que si le texte ne prévoit rien, n'a pas dans son texte même, dans son corps même, un article qui vous dit « la date d'entrée en vigueur, c'est celle-ci », alors l'entrée en vigueur, elle se fait au lendemain de la publication au journal officiel. Donc ça veut dire qu'on a bien nos trois temps, promulgation, publication au JO, et le lendemain, entrée en vigueur. Voilà. Et donc ça laisse un délai de principe de 24 heures pour que la loi soit portée à la connaissance des citoyens avant qu'elle ne devienne exécutoire. Ça, c'est les deux premières hypothèses. Troisième hypothèse qui est la fin du premier alinéa. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Qu'est-ce que ça veut dire si on synthétise ? Vous vous souvenez quand on a fait la hiérarchie des normes et qu'on a parlé du bloc réglementaire, on a envisagé pour les décrets le fait qu'il y avait deux types de décrets, des décrets autonomes et ce qu'on a appelé aussi des décrets d'application. Et on avait expliqué que les décrets d'application, c'était les décrets qui venaient préciser des points, que là, il y avait une logique de relais avec la loi, et que les décrets d'application venaient préciser des points que la loi avait laissés libres. C'est exactement cette hypothèse-là. Quand vous êtes dans une hypothèse où la loi nécessite des décrets d'application, alors son entrée en vigueur est reportée à la date à laquelle les décrets d'application seront pris. Voilà. Donc là, pour le coup, dans cette hypothèse-là, on n'a pas de date fixe. Ça dépend de la date du décret d'application. Alors, dans certaines hypothèses, les décrets d'application, ils vont venir très vite. Le gouvernement prendra très vite les décrets d'application. Dans d'autres, ça prendra plus de temps. Mais en tout état de cause, dès lors qu'il faut des décrets d'application, vous reportez l'entrée en vigueur de la loi à la prise des décrets. Dernière hypothèse, qui est la plus exceptionnelle, hop, c'est le deuxième alinéa. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit, et la question des actes administratifs qui est plus résiduelle. Donc, c'est le cas de l'urgence, cette dernière hypothèse. C'est un cas très isolé que vous rencontrerez très exceptionnellement. Hein. L'essentiel des hypothèses, c'est les trois premières. Mais dans certaines hypothèses très marginales, le président va considérer qu'il y a une urgence particulière à une application immédiate. Mais donc, vous vous doutez bien que c'est quand même relativement rare hein, quand on n'a même pas 24 heures pour attendre l'entrée en vigueur de la loi. C'est quand même pas ce qui arrive le plus souvent. Dans ces hypothèses-là, le décret de promulgation, c'est-à-dire la première date qu'on a vue là, hop, le décret de promulgation va préciser que l'entrée en vigueur se fera au jour de la publication au JO. Si le décret de promulgation précise ça, alors on n'aura pas le délai de 24 heures avec une entrée en vigueur le lendemain. Dans ce cas-là, vous aurez une entrée en vigueur immédiate au jour de la publication au journal officiel. Voilà. Quand on a vu ça, donc vous avez l'intégralité des hypothèses d'entrée en vigueur de la loi et de moment de l'entrée en vigueur de la loi. Ce qui nous intéresse maintenant, évidemment, au-delà de cette question-là, qui est un peu l'analyse textuelle de l'article premier, c'est surtout, quand je vous dis à chaque fois, c'est pas du par cœur, mais c'est essayer de comprendre la justification de ce fonctionnement-là, qu'on a déjà un peu commencé à évoquer en réalité, hein. Mais qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique le fait que on ait une date d'entrée en vigueur qui soit un peu décalée et par rapport à la promulgation et par rapport à la publication? Et c'est effectivement le principe, nul n'est censé ignorer la loi, dont on vous rebat les oreilles systématiquement partout, y compris dans la presse généraliste. Et là encore, en réalité, tout le monde connaît la règle au sens de la déjà entendue, et en fait, il y a peu de gens qui connaissent son sens véritable. Qu'est-ce que ça veut dire, nul n'est censé ignorer la loi? Comment est-ce qu'on se saisit du sens technique? Parce que, en fait, c'est un sens beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que c'est que le sens technique de cette règle-là? Encore une fois, d'abord, si on raisonne par la négative, c'est un principe général, mais ça ne veut pas dire qu'on attende de l'ensemble des citoyens une connaissance par cœur. On est simplement obligé de fonctionner comme ça dans une société qui est encadrée par le droit, de partir de ce principe-là. Les citoyens connaissent la loi. En réalité, encore une fois, c'est l'idée que les citoyens sont tous mis en capacité, en mesure de la connaître. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ça, on ne peut pas aller vérifier chez chaque personne derrière. Mais tout le monde a été mis en capacité de connaître la loi qui s'applique. Et c'est ça, en fait, le sens de « nul n'est censé ignorer la loi ». Pourquoi est-ce qu'elle s'applique à tout le monde? Parce que tout le monde a été en capacité d'en prendre connaissance. Donc, elle est légitime à être obligatoire pour tous. Si on veut faire l'effort, on peut tous la connaître. Alors après, il y a d'autres débats qui sont presque plus d'ordre sociologique, voire philosophique, qui sont aussi des questions de, mais qui sont différentes et qui nous échappent là sur ce sujet-là, qui sont aussi des questions de d'accessibilité au sens aussi de la compréhension. Voilà. C'est facile dans un amphi de droit, avec des étudiants comme vous qui se destinent à ça et qui s'y intéressent, d'expliquer le fait qu'on est tous mis en mesure de la connaître. Aller faire lire un journal officiel à quelqu'un qui n'y connaît rien et que ça n'intéresse pas du tout, et il y a connaître et connaître. Voilà. Vous êtes mis en capacité d'avoir pris connaissance au sens strict. Compris, ça peut être un autre débat. Parfois, y compris pour les juristes, hein, d'ailleurs. Mais le sens strict de ce principe-là, c'est ça. parce que la loi est diffusée, parce que on assure sa publicité, publicité évidemment pas au sens des pubs à la télé, hein, publicité au sens de au sens juridique pour le coup, de rendre public. La publicité au sens juridique, le premier sens, c'est ça, c'est le fait de rendre public. Donc la publicité de la loi, elle est assurée par sa diffusion au journal officiel, par sa publication au journal officiel. Et c'est cette clé-là qui permet de rendre obligatoire la loi pour tous, parce qu'on a tous été mis en capacité de la connaître. Cette règle-là, c'est ce qu'on appelle une présomption irréfragable de connaissance. Évidemment, je vais expliquer cette expression-là. Alors, le terme de présomption, d'abord, c'est un terme que vous allez rencontrer très souvent, qu'on retrouvera par la suite, nous, quand on parlera de la preuve aussi. Une présomption, pardon pour la redondance, mais je vais expliciter après, une présomption, c'est le fait de présumer, c'est-à-dire de partir du principe, ici sur une présomption de connaissance, de partir du principe que les citoyens connaissent la loi. La présomption de connaissance, c'est le fait de considérer comme acquis le fait qu'on connaisse, le fait que les citoyens connaissent la loi. C'est une présomption ici qui est une présomption générale. Pourquoi générale? Parce qu'elle s'applique indistinctement à tous les citoyens, quels qu'ils soient. Donc cette présomption, elle joue pour tous les citoyens, elle joue pour toutes les règles de droit. Ici, quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », en fait, c'est plus large que ça. Hein. C'est la loi, ce que je vous disais au début de la première partie. Parfois, quand on utilise le terme « loi », c'est pas le texte au sens du bloc de légalité, c'est la règle de droit. Souvent, il y a un double sens sur la loi, en fait. La loi au sens technique, qui est le texte élaboré au Parlement en France, etc. Et puis, il y a un sens plus générique, c'est la loi au sens de la norme, en réalité, de la règle de droit. Ici, le nul n'est censé ignorer la loi, c'est au sens générique. Si vous prenez le droit de l'Union européenne, il y a un journal, journal officiel de l'Union européenne aussi. Et les textes contraignants de l'Union qu'on a déjà vus, au premier titre, les directives et les règlements, sont publiés aussi au journal officiel de l'Union. Donc la notion de publicité, elle vaut partout. Donc, comment est-ce que ça se traduit, cette présomption de connaissance? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça signifie qu'il n'est pas possible d'échapper à l'application de la loi sous prétexte qu'on ne la connaissait pas. Et en réalité, il faudrait préciser le propos, ça n'est jamais possible d'y échapper sous le prétexte d'une absence de connaissance, parce que la présomption en cause ici, la présomption de connaissance en cause ici, est précisément une présomption irréfragable. Ce qui nous amène à faire le distinguo entre les présomptions réfragables et irréfragables, pour que vous compreniez bien. Il y a en fait, dans les présomptions, c'est-à-dire encore une fois, dans le fait de présumer, de partir du principe d'une situation, il y a deux intensités qui existent en droit. La présomption réfragable, qui est le premier niveau, et la présomption irréfragable, qui est le niveau du dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une précision réfragable, d'abord? Attention, mettez-le-moi en gros, je vous explique ce que c'est qu'une présomption réfragable, mais celle qu'on étudie ici, elle n'est pas réfragable. Elle est irréfragable par définition. C'est juste pour que vous compreniez que je vous explique les deux. La présomption réfragable, qu'est-ce que c'est? Alors, elle a une intensité moindre, on le disait à l'instant, c'est-à-dire que pour la présomption irréfragable, on présume une situation, on la tient pour acquise, on part du principe qu'elle existe, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, mais on permet à celui à qui on l'applique, à celui ou à celle, hein, de rapporter la preuve contraire. Et s'il y arrive, ou si elle y arrive, on arrêtera de tenir la situation pour acquise. Je répète et j'explique ensuite. Sur la présomption réfragable, on tient la situation pour acquise, mais on donne la possibilité à celui ou à celle à qui on applique la présomption d'apporter la preuve contraire. Et s'il apporte la preuve contraire, alors on arrêtera de tenir la situation pour acquise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Admettons, encore une fois, en gros, en souligné, comme vous voulez dans le cours, que ce n'est pas le cas ici, mais admettons que la règle « nul n'est censé ignorer la loi », elle soit réfragable, que ce soit une présomption réfragable. Partons de ce principe-là. Donc, ça veut dire qu'on va présumer que le citoyen a connaissance de la loi, mais qu'on va lui laisser la possibilité de prouver que ce n'était pas le cas. Par X ou Y moyen, j'ai aucun moyen de me connecter à Internet et je suis dans l'incapacité totale de me déplacer et donc j'ai aucun moyen de consulter un journal officiel. J'ai pas de radio, j'ai pas Internet, j'ai rien. Si on est dans le cas d'une présomption réfragable, alors ça veut dire qu'en ayant prouvé ça, le citoyen peut échapper à l'application de la loi. Je force le trait, évidemment. Mais c'est pour vous expliquer aussi pourquoi on ne pouvait pas considérer cette présomption-là comme réfragable. Ça veut dire qu'une personne qui tue serait en capacité de dire « Mais moi, je découvre qu'on n'a pas le droit de tuer un citoyen. Je ne sais pas ce que c'est qu'un code pénal, j'ai jamais eu accès à aucune règle, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. » Donc, je prends l'exemple le plus tranché, évidemment, mais vous voyez bien que cette présomption-là, pour que la vie en société se fasse correctement, elle ne pouvait pas être réfragable. Parce que si elle l'avait été, on aurait laissé le champ libre. Alors j'ai pris l'exemple le plus tranché, mais ça marche pour tout. Pour que la vie en société se fasse bien, on ne peut pas permettre aux citoyens d'échapper à l'application de la loi sous prétexte qu'ils ne la connaissent pas. Sinon, on ne s'en sort pas. Vous allez avoir toutes les justifications du monde pour échapper à l'application de la règle, et plus personne n'appliquera la règle, ou en tout cas, vous aurez un paquet de monde qui fera en sorte de ne pas l'appliquer. Pour que tout se passe correctement, on fait en sorte que la présomption ici soit non pas réfragable, mais précisément, du coup, irréfragable. Qu'est-ce que c'est qu'une présomption irréfragable ? A priori, si vous avez pigé la présomption réfragable, vous allez comprendre très vite pour irréfragable, bah, c'est l'inverse. Peu importe la preuve contraire que vous apporterez, ça ne servira à rien. La situation qu'on tient pour acquise ne peut pas être renversée par la preuve contraire. Le fait de démontrer l'inverse de ce qu'on tient pour acquis n'a aucune incidence. Donc dans notre exemple, et là pour le coup ça fonctionne parce que, encore une fois, la présomption de connaissance de la loi, elle est bien irréfragable, ça veut dire que si, alors je ne suis pas le meilleur exemple en étant enseignant-chercheur en droit, mais en admettant que je ne le sois pas, je pique l'ordi de l'un d'entre vous et j'invoque le fait que, c'est pareil, je découvre aucune espèce d'idée que c'était sanctionné, que la loi, qu'une loi interdisait le vol, la soustraction illicite de propriété. Je découvre. Ben, c'est pas grave, t'es sanctionné pareil que si tu l'avais connu par cœur, le texte. Parce que présomption irréfragable, et parce que j'aurais beau apporter les éléments de preuve que je veux, parfois parfaitement légitimes hein, aussi, pour démontrer que je n'avais aucune connaissance de la règle de droit applicable, ça n'aura aucune espèce d'incidence. Le droit s'appliquera à moi de la même façon. Et donc vous voyez bien que, alors parfois, ah oui, alors je ne l'ai pas précisé, mais il y a une exception que je laisse de côté en droit pénal sur l'erreur légitime, mais c'est très particulier et ce n'est pas la peine de la retenir à ce stade-là. Retenez que le principe quasi absolu, en dehors d'un tout petit, une toute petite tête d'épingle sur le volet pénal, c'est le caractère irréfragable et qu'on ne peut pas apporter la preuve contraire. Vous vous souvenez, on évoquait, quand on a parlé du caractère obligatoire de la loi, dans le premier chapitre, on évoquait le fait que, sauf à être dans une société utopique, sinon, l'une des clés qui faisait que le droit était appliqué dans une société, c'était le risque de la sanction. Voilà. C'est comme ça. Alors, on le regrette ou on ne le regrette pas, mais ça fonctionne comme ça. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, alors, maintenant, même pour un film comme ça, vous êtes peut-être même un peu jeune, mais... C'est dystopique, évidemment. Hein. Mais la série des American Nightmare, ça parle à certains, les films. Hein. À main levée, certains les ont vus. Bon, génial. American Nightmare, en fait, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, ne vous l'infligez pas si c'est un peu rude. Mais Moi, j'ai trouvé ça un peu rude. Les autres, je ne les ai pas vus, j'ai vu que le premier. Venez pas me chercher sur les films d'horreur, je les ai tous vus. Celui-là, je l'ai trouvé un peu rude. C'est le concept même d'American Nightmare. Une nuit par an, si je me souviens bien, le droit ne s'applique plus. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a plus de sanctions. Et donc, évidemment, les gens deviennent furieux et s'en prennent à tout le monde pendant une nuit par an parce qu'il n'y a plus de sanctions. En soi, pour alors c'est très particulier hein, comme méthode d'enseignement, là, ce que je fais. Pas grave, hein, le droit par la pop culture, c'est une méthode qui prend de plus en plus de racines. C'est l'exemple parfait pour vous expliquer le caractère obligatoire du droit. Pour beaucoup d'individus, alors c'est très, là encore, le trait est très forcé dans American Nightmare, c'est le concept, hein. Mais il y a des chances pour que ça se produise comme ça si un jour ça devait arriver, hein, quand même. Une nuit par an, vous faites absolument ce que vous voulez et il n'y a pas d'application du droit. Donc on peut violer, tuer, torturer, etc. Si c'est dans le créneau des 12 heures que ça laisse, vous risquez rien. Et il y a plein de gens qui, du coup, évidemment, s'y livrent. Le caractère obligatoire du droit, c'est ça, hein. Le poids de la contrainte légale de la puissance publique, s'il vous plaît, retient parfois un certain nombre de comportements. Parfois, on ne se comporte pas dans les clous juste parce que notre morale nous dicte, etc. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos de tout ça ? Parfois, on le fait juste parce qu'on a un peu la peur du gendarme. Voilà. Parce qu'on sait que derrière le comportement, il y a une possibilité de sanction et qu'on n'a pas très envie d'être sanctionné. Et en fait, ce qui nous amène au respect de la règle de droit, c'est plus cette crainte-là que moi, je suis une ligne droite de toute façon et je ne veux pas sortir de la ligne que je me suis fixée. Donc, vous voyez bien que, encore une fois, j'ai pris cet exemple-là, mais ça ne me semble pas inintéressant pour justifier du caractère obligatoire et de l'importance de la contrainte dans la règle de droit. Si vous acceptiez l'idée d'une présomption réfragable sur cette question-là, on ne s'en sort plus. Voilà. En fait, pour que le droit soit efficace, il faut qu'il soit applicable à tout le monde. Pour qu'il soit applicable à tout le monde, il faut que tout le monde soit mis en capacité de le connaître. On vient d'expliquer comment ça s'était fait. Dès lors que tout le monde est mis en capacité de le connaître, alors il s'applique à tout le monde indistinctement. Et si vous n'avez pas été en capacité de le connaître, tant pis pour vous. En tout cas, ça ne vous permettra pas d'échapper à son application. Ceci dit, en réalité, il faut préciser un peu mon propos. C'est ce que je vous ai mis à la fin de la slide. Je ne peux pas invoquer l'absence de connaissance de la règle pour échapper à son application. Exemple. On va prendre celui-là. On a pris plusieurs fois l'exemple du devoir de fidélité dans le mariage. Vous avez donc, vous le verrez au second semestre en droit de la famille, dans les règles de droit, dans le code civil, il y a un article qui prévoit le devoir de fidélité entre époux. C'est donc pas juste un devoir. Vous vous souvenez, dans le premier chapitre, on a fait le distinguo avec les règles religieuses, les règles morales. Ça veut dire que le devoir de fidélité n'est pas seulement un devoir moral ou un devoir religieux, c'est aussi une règle légale. Le droit sanctionne l'infidélité dans le mariage. Bon. Admettons, moi je me suis mariée et je ne savais pas. Je découvre. Moi je pensais justement que bon, la fidélité, en fait, le législateur, ça ne le regarde pas quelque part. C'est une règle morale. Éventuellement, c'est une règle religieuse, le cas échéant. Morale aussi, d'ailleurs, éventuellement, ce n'est pas toujours le cas. Mais alors, je débarque sur le fait que c'est une règle légale. Et je suis infidèle. Et mon conjoint demande un divorce pour faute. Divorce pour faute, ou donc, le cas échéant, je devrais des dommages-intérêts pour réparer la faute que j'ai commise en violant mon devoir de fidélité. Et moi, j'invoque le fait que je tombe des nues. Si j'avais su que c'était un devoir légal, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, je ne me serais pas amusée à ça. Le juge va vous dire, eh ben tant pis. Vous ne pouvez pas invoquer votre absence de connaissance de la règle de droit pour échapper à son application. Je ne peux pas invoquer le fait que je découvre le devoir de fidélité pour échapper à la sanction de l'infidélité. Là, ça marche. Deuxième exemple. Vous êtes héritier dans le cadre d'une succession Et en fait, vous vous faites un peu avoir, admettons que ça existe parfois, vous cédez la valeur de vos droits dans le cadre d'une succession. Et vous découvrez par la suite qu'en fait, vous n'aviez aucune idée de ce que vos droits représentaient parce que vous n'aviez pas du tout conscience que votre poids dans la loi en tant qu'héritier était autant, et vous allez demander l'annulation de la cession des droits de succession en disant « mais moi, je découvre que le droit me protégeait comme ça. Si j'avais su que j'étais protégée comme ça par le droit, jamais j'aurais cédé mes droits. » Dans ce cas-là, vous pourrez obtenir l'annulation de la cession. Parce que dans ce cas-là, vous invoquez l'absence de connaissance, non pas pour échapper à l'application de la loi, mais précisément au contraire pour obtenir son application. Dans notre exemple-là, vous allez dire au juge « mais moi, je ne savais pas que j'étais protégée comme ça. Si j'avais su que j'étais protégée comme ça, je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas vendu mes droits. » Et dans ce cas-là, le juge va pouvoir annuler la cession parce que précisément, vous invoquez une absence de connaissance pour vous voir appliquer la loi, pas pour échapper à son application, mais pour qu'elle vous soit appliquée. Donc ça veut dire que l'adage crée une présomption irréfragable de connaissance qui empêche tout citoyen d'invoquer cette absence de connaissance pour échapper à l'application de la règle. Vous voyez que c'est un chouïa plus compliqué que ce qu'on explique quand on vous explique dans les médias mainstream le nul n'est censé ignorer la loi. C'est souvent le cas pour les règles de droit qui sont invoquées. Et c'est normal et pas normal, hein. C'est parfois un peu regrettable qu'il n'y ait pas de formation en droit dans certaines rédactions pour éviter de dire des énormités. Ce sera votre job aussi parfois de rectifier, de faire preuve de pédagogie et d'expliquer. En tout cas, souvenez-vous que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » qu'on voit partout, en fait, il a un certain nombre de justifications. Il permet lui-même de justifier la question de l'entrée en vigueur de la règle. Voilà. Parce qu'il faut, encore une fois, que les citoyens soient mis en mesure, qu'ils le fassent ou pas, après, ça échappe à notre contrôle, mais qu'ils soient mis en mesure de contrôler l'application, de connaître, pardon, la règle nouvelle qui entre en vigueur. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça ? Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Bon, on est pas mal. Une pause de 10 minutes et on reprend sur l'abrogation ensuite.